Je vous invite à ouvrir votre Bible si vous l'avez. Pour terminer ce qui a été appelé saga de l'été, sur le livre de Sophonie, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avant que nous soyons partis en congé. Un drôle de texte, il faut bien l'avouer. 3 chapitres, au contraste assez saisissant. On avait commencé, vous vous souvenez, par méditer le chapitre 1, un chapitre qui annonce le jugement terrible et universel de Dieu sur toute l'humanité. Et puis ensuite, on l'avait poursuivi avec le chapitre 3, où là, on avait un message d'espoir d'un Dieu qui sauve, qui va visiter son peuple, qui va être dans la joie, dans l'amour, parce que Dieu sera là au milieu de son peuple. Et voilà notre petit chapitre 2, coincé entre ces deux chapitres assez contrastés. Je vous rappelle juste brièvement le contexte. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ, petit pays de Juda, qui a laissé fleurir au milieu de son peuple, au milieu de ses chefs politiques, de ses autorités judiciaires et même de ses chefs religieux, la corruption, l'immoralité morale et spirituelle. Bien sûr, ça n'est que de la pure science-fiction. De nos jours, nous n'avons plus affaire à tout cela. Donc nous ne sommes plus tellement concernés par cela, n'est-ce pas? Voici ce que dit le Seigneur à son peuple de Juda. « Rassemblez-vous et recueillez-vous, nations sans pudeur, avant que ne survienne le décret et que ce jour ne passe comme de la menue paille, avant que n'arrive sur vous la colère ardente du Seigneur, avant que n'arrive sur vous le jour de la colère du Seigneur. Cherchez le Seigneur, vous tous, gens humbles du pays, vous qui agissez selon son équité. Cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous cachés au jour de la colère du Seigneur. Car Gaza sera abandonnée, Ashkelon sera dévastée, Ashdod sera chassée en plein midi, Ekron sera déracinée. Quel malheur pour les habitants du bord de la mer, pour la nation des Kérétites. La parole du Seigneur est contre vous. Canaan, pays des Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Le bord de la mer deviendra des pâturages, des pacages pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Cette région sera pour le reste de la maison de Juda. C'est là qu'ils feront paître leur bétail. Le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ashkelon, car le Seigneur, leur Dieu, interviendra pour eux. Il rétablira leur situation. Oh, j'ai entendu les outrages de Moab et les injures par lesquelles les Ammonites outrageaient mon peuple et s'élevaient contre ses frontières. C'est pourquoi, par ma vie, déclaration du Seigneur des armées, Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome, les Ammonites comme Gomorre. Ce sera un lieu couvert de mauvaises herbes, une mine de sel, un lieu dévasté pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera. Ce qui subsistera de ma nation s'emparera de leur patrimoine. Car leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont outragé le peuple du Seigneur des armées et qu'ils se sont élevés contre lui. Le Seigneur sera redoutable contre eux. Il anéantira tous les dieux de la terre, toutes les îles des nations se prosterneront devant lui, chacun en son lieu. Vous aussi, Cushites, vous serez victimes de mon épée. Il étendra sa main vers le nord et il fera disparaître la Syrie. Il fera de Ninive un lieu dévasté, une terre desséchée comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce. Aussi bien le pélican que le hérisson passeront la nuit parmi ses chapiteaux. Une voix ululera à la fenêtre. La ruine sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville en liesse, qui habite en sécurité et qui se dit « Moi et rien que moi ». Comment ? Elle est dévastée, c'est un gîte pour les animaux. Tous ceux qui passent près d'elle sifflent d'horreur et agitent la main. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et Père, que ton Esprit Saint nous aide à entendre ta parole, qu'elle nous aide à discerner ce que tu veux nous dire ce matin. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole. Amen. Je ne sais pas vous, mais ce drôle de passage m'effraie un peu quand même. On a envie parfois, quand on ouvre la Bible, d'un peu d'exotisme, d'un peu de texte un peu léger, qui ne soit pas tout à fait en accord avec ce que nous vivons, les malheurs qui frappent encore et encore et qui vont continuer certainement de frapper. On est, me semble-t-il, partagé entre ce chapitre 1 et ce chapitre 3 de Sophonie dans notre vie, chrétienne notamment. Le chapitre 1, c'est le chapitre du jugement. On a parfois bien hâte que le Seigneur vienne mettre un terme au mal qui règne. Vivement, vivement, vivement le jugement, pour que tous les méchants qui soient autour de moi soient jugés et qu'on n'en parle plus. Et puis petit à petit, en y réfléchissant, on ne se trouve pas si irréprochable que cela. Et puis il y a le chapitre 3, celui de la joie de la présence de Dieu. On se dit oh, vivement que ça arrive, et force est de constater que ce n'est pas encore le cas. On se dit, mais quand est-ce que le Seigneur va venir? Quand est-ce que va régner la joie et l'amour? Jusqu'à quand, Seigneur, faudra-t-il souffler, soupirer après ce monde? Nous sommes coincés entre ces deux réalités, entre la hâte et en même temps la peur du jugement qui vient, et puis cet espoir qu'un jour nous vivrons auprès de Dieu. Mais une question nous taraude peut-être. Serais-je parmi ceux-là? Il y a peu, je couchais Benjamin, il dormait avec ses petits cousins le soir, et il me pose une question que je vous soumets. On va voir si vous allez trouver la réponse. Alors qu'il était presque en train de s'endormir, il me pose cette question hautement théologique. « Papa, est-ce qu'il existe quelque chose de pire que la mort ? Est-ce qu'il existe quelque chose de pire que la mort ? Vous avez 2 minutes. Alors, il m'a donné tout de suite et assez rapidement la réponse. Il m'a dit, papa, ce qui est pire que la mort, c'est la perte de l'espoir. Parce que quand on est mort, notre sort est réglé. Mais lorsqu'on a perdu tout espoir, alors on n'a plus rien à attendre de la vie. Et ce chapitre 2 de Sophonie, me semble-t-il, nous donne et donne au peuple de Juda des lueurs d'espoir. Des lueurs d'espoir sous forme de 2 impératifs. Le premier, c'est « rassemblez-vous », qui est répété par 2 fois. « Rassemblez-vous, rassemblez-vous ». Et le second, c'est « chercher ». Rassemblez-vous. Au milieu des malheurs et des jugements, le Seigneur invite son peuple de Juda à se rassembler, à un temps spécial, à un temps collectif où d'un seul cœur ils vont reconnaître leurs torts. Il ne sera pas question de confesser peut-être les péchés les uns après les autres. Nous sommes souvent assez forts, n'est-ce pas, pour regarder l'un ou l'autre. Ah, celui-là, il a commis de grands péchés, bien plus que moi, n'est-ce pas? Et le Seigneur n'a que faire. Il invite collectivement son peuple, d'un seul cœur, à se placer devant lui. Parce que de toute façon, le Seigneur sait très bien. C'est très bien ce qui se passe dans le cœur de son peuple. Un peuple avec lequel il n'est pas très sympathique. Il traite de nation sans pudeur. Drôle d'expression, mais nation, n'est-ce pas ce terme utilisé péjorativement pour dénoncer ces peuples païens, idolâtres et méchants qui entouraient Israël? Finalement, c'est ce peuple de Juda, d'Israël, qui était destiné à apporter la bonne nouvelle de l'existence d'un Dieu vivant autour de lui, se retrouve être une nation parmi tant d'autres, sans pudeur, n'ayant même pas honte de sa méchanceté, de son idolâtrie. Ils n'ont pas été au rendez-vous. Alors il pourrait être facile de lire et regarder Juda à l'époque avec un regard condescendant, disant « bon, ils n'ont pas été au rendez-vous ». Mais une question se pose alors. Est-ce que l'Église a toujours été au rendez-vous dans sa mission depuis plus de 2000 ans? Est-ce qu'elle a toujours été porteuse d'un message de bonnes nouvelles, de joie, d'amour et de paix? Mais c'est d'un seul cœur que le Seigneur invite son peuple à se rassembler. Un seul cœur. Et Dieu ne change pas. Philippe nous l'a dit. Dieu tient ses promesses. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Rassemblez-vous, quel que soit votre cœur, quel que soit votre péché, rassemblez-vous. Et pour nous et pour notre Église, cet impératif, rassemblez-vous, garde de sa vigueur et nous interroge. Rassemblez-vous. Est-ce que nous sommes une Église où l'Évangile se vit? Est-ce que nous sommes une Église qui accueille quiconque, quel que soit son passé, quelles que soient ses turpitudes, ses glissades? Est-ce que nous sommes une Église où il est bon de grandir ensemble dans la vérité? Est-ce qu'il est bon d'être dans cette Église où Dieu restaure, renouvelle et guérit, tout simplement parce que nous y sommes rassemblés humblement? Est-ce que nous sommes une Église comme un foyer où quiconque cherche le Seigneur va le trouver? Est-ce que nous sommes une Église humble, rassemblée, à genoux devant Dieu? Personnellement, je confesse que bien souvent, j'ai besoin d'une soif renouvelée de la présence de Dieu. Combien de fois, dans mon cœur, et peut-être dans nos cœurs à nous, nous faisons notamment de nos réunions de prière un devoir distant. Mais si on entend à nouveau cet appel du Seigneur, rassemblez-vous, rassemblez-vous. Alors ensemble, il nous faudra répondre à genoux et dire, Seigneur, nous voici à genoux devant toi. Nous voilà pour chercher ta volonté. Car c'est là le deuxième impératif, la deuxième clé d'espoir, me semble-t-il, pour le peuple de Juda et pour nous-mêmes. Chercher le Seigneur, chercher la justice et chercher l'humilité. Je lisais au cours d'un de nos trajets un article. Peut-être que vous connaissez ce nouveau phénomène, les escape games. C'est un grand succès dans les grandes villes. En fait, il s'agit simplement de placer des individus dans une pièce. Ils ont des énigmes, des choses à faire pour découvrir finalement la clé pour sortir de leur emprisonnement. Il s'agit finalement de trouver les clés, les indices qui vont leur permettre de sortir et retrouver la liberté. Et dans ce texte de Sophonie 2, la clé pour sortir de notre emprisonnement, de la clé pour la liberté, eh bien, il s'agit d'une personne, le Seigneur Dieu d'Israël, le Dieu fidèle, celui qui est de toute éternité, celui qui est créateur de l'univers. Et il faut le chercher. Il faut le chercher, nous dit le texte. Mais à mon avis, il y a quand même une peur à avoir là. Cherchez le Seigneur et le peuple va savoir que s'il le trouve, ils seront reconnus coupables, n'est-ce pas? Imaginez que votre enfant ait fait une bêtise. Benjamin est là, mais... Imaginez qu'il ait fait une bêtise et que vous lui dites, pour lui recevoir la punition, « Tu dois me trouver !» « Cherche-moi et tu auras la punition !» Drôle de pédagogie, n'est-ce pas? Drôle de pédagogie, drôle de cache-cache. Cherchez Dieu alors même que l'on sait que face à lui, on va devoir trembler. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, dans la tête de l'enfant? Peut-être qu'il ne va pas vous chercher et fuir. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du fils prodigue alors qu'il était né dans la boue? Et qu'il réfléchissait à son père, à sa famille, chercher. C'est bien effectivement se mettre en mouvement, c'est se préparer à trouver ce que l'on cherche. Mais une fois qu'on a trouvé ce que l'on cherche, on est face à cette chose en vérité. On ne peut plus se cacher. Chercher Dieu, chercher sa présence, ça pourrait être effrayant. Mais si le Seigneur nous y invite, c'est qu'il accepte aussi de se laisser trouver. Et c'est là une bonne nouvelle. Il accepte de se laisser trouver par les humbles, dit le texte. Cherchez Dieu. Alors l'ont-ils trouvé, ce Dieu ? L'ont-ils trouvé ? Et où est la garantie finalement de trouver Dieu ? Je me souviens d'une discussion avec un parent dans un gymnase de sport. Et parent très ouvert, un père très ouvert qui me dit « Moi, je ne suis pas chrétien, je suis d'arrière-plan musulman, certes, mais pour moi, tout se vaut. Toutes les religions se valent. Ce sont des chemins un tout petit peu différents, mais qui mènent tous à Dieu. » Bon. Alors je lui ai dit simplement, avant de le quitter, « Écoute, cher ami, réfléchis simplement à une chose, au mot « révélation ». Au mot « révélation ». À ton avis, comment une fourmi peut s'adresser à un être humain ? Et puis je l'ai laissé comme ça, avec ses réflexions. Comment Dieu peut-il se laisser trouver ? Et d'ailleurs, s'est-il laissé trouver ? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu s'est un jour laissé trouver ? Alors, si vous avez fait l'école du dimanche, normalement, vous savez la réponse à toutes les questions. C'est Jésus, bien sûr. Ce Fils qui est l'image du Dieu que nul ne voit. En Jésus, Dieu s'est laissé trouver. Et il a été plus loin. Il a fait même le pas de se révéler. Par amour. Il ne s'est pas caché, il est venu. Un premier pas qui ne fut pas sans douleur, comme nous le dit ce chant que nous chantons parfois au moment de la Sainte Cène. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. L'humilité. Les humbles. Oh, l'humilité, il ne s'agit pas de se déprécier sans cesse et de se dire en se flagellant « je suis qu'un moins que rien ». Être humble. On raconte une histoire d'un groupe d'étudiants qui étaient en visite à Beaune et le guide leur montre un joli piano, un très joli piano sur lequel Beethoven a composé, figurez-vous. Incroyable ! Alors une jeune fille américaine, plutôt jolie, demande au garde « Est-ce que je pourrais jouer de ce piano ?» Le garde, un peu séduit, la laisse faire. Et voilà que la jeune fille se met au piano et joue l'ouverture de la sonate au clair de lune. Une fois qu'elle a terminé, elle s'adresse au garde en disant « Oh, je suppose que tous les grands pianistes qui viennent ici veulent jouer sur ce piano. » Le gardien secoua la tête et dit « Paradevski, célèbre pianiste polonais, est venu il y a quelques années. » Et il a dit qu'il n'était même pas digne de toucher un seul morceau de ce piano. L'humilité, disait Charles Spurgeon, c'est reconnaître nos limites, faire une juste évaluation de soi-même. Le peuple de Juda ne peut plus se cacher. Il doit reconnaître qui il est. Il doit être à cœur ouvert devant son Dieu. Et c'est cette sincérité d'esprit que le Seigneur aussi attend de nous, me semble-t-il. C'est dans cette sincérité, dans ce souci de la dépendance de Dieu, dans être, le être vrai devant Dieu, que réside l'assurance de la présence de Dieu, cette espérance profonde. L'humilité, ce n'est pas se déprécier sans cesse, mais c'est être sincère, lucide sur qui nous sommes et de recevoir l'appréciation de Dieu. L'humilité, c'est le chrétien qui, à genoux, la tête baissée, voit son Dieu lui relever la tête et le mettre debout. Voulons-nous, chers amis, que nos vies soient changées? Voulons-nous voir la puissance de Dieu agir dans notre vie, dans notre Église? Alors ce changement passe par un honnête aveu de vulnérabilité. Être à cœur ouvert devant Dieu. Sur nos luttes intérieures, sur notre désarroi, sur notre péché. Et l'humilité nous place tous ensemble à genoux, encore une fois, devant le Seigneur. Alors soyons lucides, chers amis. Soyons lucides en nous regardant tels que nous sommes devant Dieu et tels que Lui nous voit. Et même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Voulons-nous, chers amis, une relation vraie ou renouvelée avec Dieu? Voulons-nous abandonner nos idoles pour vivre avec Dieu ce matin? Voulons-nous chercher Dieu en toute humilité et en toute sincérité? Ne nous cachons pas de Dieu. Ne nous cachons pas de Lui. Il nous connaît, il vous connaît, il vous aime. Alors si vous entendez sa voix ce matin, sa voix qui vous dit « Cherche-moi, cherche-moi », n'attendez plus, n'attendez plus par pitié. Et en toute sincérité, en toute humilité, dites-lui « Me voici, tel que je suis, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. » Amen.